ancien allié qui se retourne contre son protecteur. Tout cela n'est pas très clair. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Jules César brise la trêve hivernale et depuis la Narbonnaise, eh bien, fond vers ce qu'il appelle la Gaule chevelue. Et là, pour les deux adversaires, commence une véritable course-poursuite. De Vélonodonum, près de Sens, à Avaricum, Bourges, en passant par Cénabum, Orléans, César réprime les foyers de révolte, tandis que Vercingétorix harcèle les légions romaines, refusant le combat à découvert. Surtout, il adopte une nouvelle tactique, celle de la terre brûlée. Il s'agit d'épuiser l'armée romaine en lui coupant le ravitaillement, puis de l'accabler par des sièges longs et difficiles. Cela a plus ou moins bien fonctionné à Gergovie. La bataille décisive doit avoir lieu à Alésia. Au fond, Vercingétorix cherche un piège, cherche une souricière, cherche un lieu où effectivement il pourra se fortifier et, dans le récit de Jules César, point de doute, ce lieu, c'est Alésia. Mais au fait, où a eu lieu la bataille d'Alésia? Pour faire un site crédible, il faut ressembler à la topographie décrite par César. Un plateau en surplomb, une rivière de chaque côté, des monts en amphithéâtre tout autour. Avoir, si possible, une toponymie qui dérive d'Alésia et être situé entre Sens et Lyon. Les candidats sont nombreux. La Bourgogne, la Franche-Comté, le Jura, la Nièvre, chacun veut son Alésia. Et l'on voit périodiquement rebondir cette seconde bataille d'Alésia qui est aussi une bataille contre l'histoire supposée officielle. Car celle-ci a tranché depuis bien longtemps pour installer à Alise-Sainte-Reine, au revers du Morvan, l'oppidum des Mandubiens où Vercingétorix s'est réfugié durant l'été -52. L'histoire véritable, c'est que, guidé par une ancienne tradition textuelle carolingienne, les archéologues de Napoléon III qui cherchent Alésia, qui cherchent un lieu pour fixer cette histoire. Ils cherchent justement autour d'Alise Sainte-Reine et ils trouvent. Ces archéologues sont des militaires, mais il faut les prendre au sérieux. Ils ont le sens du terrain, ils ont le sens de la stratigraphie, ce sont des artilleurs. Ils comprennent très bien ce que raconte César. À partir du moment où l'on a identifié le site, on ne cesse d'y exhumer des vestiges, et plus encore avec la reprise de l'archéologie plus scientifique dans les années 1990. On retrouve les traces de la double rangée de lignes fortifiées romaines, longues de pas moins de 38 km, qui ceinturent l'oppidum où se sont retranchées les troupes de Vercingétorix. Elle est conçue pour empêcher sur un côté les sorties des assiégés, et de l'autre, repousser l'armée de secours en route pour desserrer l'étau. Avec les campagnes de fouilles, on découvre aussi toute une multitude d'armes. Des épées, des pointes de flèches, des casques, des restes de boucliers, des boulets, des clous de chaussures, datant du 1er siècle avant notre ère et attribuables aux troupes romaines et gauloises. Les reconstitutions in situ d'un fragment des fortifications permettent de prendre la mesure des travaux de siège des ingénieurs romains. Des talus, des fossés, des palissades en bois, des pièges. Cette architecture de terre et de bois est aussi géométrique que la grande architecture romaine de pierre. Alors maintenant, on a un nom, une date, un lieu. On a un texte qui coïncide avec le terrain. Donc nous y sommes. Donc enfin, ça commence. Le péplum peut démarrer. Le siège, le récit du siège, il a duré quoi ? À deux mois, on connaît les forces en présence. D'un côté, on a les 10 à 12 légions romaines commandées par Jules César, 40 à 45 000 hommes. De l'autre côté, on a les assiégés, l'armée de Vercingétorix, estimée par Jules César, qui exagère peut-être, à 80 000 hommes. Mais il dit même qu'il y a une armée de secours qui en aurait 400 000. Donc on a une disparité des forces qui est très impressionnante et qui pourtant va tourner à l'avantage des assiégeants. Le piège d'Alésia se retourne contre lui-même. Jules César décide d'affamer les assiégés, qui tentent vainement plusieurs sorties. lorsqu'à la fin du mois de septembre, les troupes d'élite de Vercassivellaunos, le cousin de Vercingétorix, viennent à la rescousse, la guerre semble tourner à l'avantage des Gaulois. Mais la supériorité tactique des Romains et l'intervention décisive de leur cavalerie font la différence. L'armée de secours prend la fuite, les Gaulois ont définitivement perdu. Vercingétorix, ce sacrifice était évidemment le dernier geste qui sera ensuite interprété dans la tradition ultérieure sur un modèle évidemment christique. Jules César est vainqueur. Vercingétorix sort de l'histoire. Avec la défaite, Vercingétorix sort de scène. Est-ce à dire que son visage demeurera à jamais indiscernable, confondu avec les traits du conquérant qui le grandit pour s'exalter lui-même? Dès 1878, on découvre à Alice Sainte-Reine une monnaie d'or à son effigie, frappée du temps de la guerre des Gaules. Depuis lors, on a retrouvé 27 de ses statères, 25 en or et 2 en bronze. Ces découvertes donnent à voir une autre image du chef gaulois. C'est ce dont va nous parler Emmanuel Rousseau, spécialiste des représentations du pouvoir dans le monde romain.
On est tenté de donner du sens à tout ce qui se trouve sur ces monnaies. C'est peut-être légitime, mais il nous manque malgré tout les clés de lecture. Autant pour le domaine romain, on arrive, grâce au concours des monuments, des inscriptions, des sources textuelles, à éclairer la majorité des symboles qu'on trouve dans la monnaie. On est beaucoup plus démunis dans le contexte du monnayage gaulois. On a un modèle qui est un statère de Philippe II de Macédoine, qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce statère a la particularité de porter au droit une image divine, puisque c'est une tête laurée d'Apollon, très vraisemblablement. Et on a une très longue tradition, en réalité, d'imitation gauloise de ce statère de Philippe II, où on va amener des éléments de stylisation dans la chevelure, et on va progressivement dériver vers une image qui se rapproche assez fortement, finalement, de celle qu'on va retrouver sur les statères de Vercingétorix. Si on se penche sur le monnayage arverne, notamment des années qui précèdent, on se rend compte que, en réalité, cette même image est utilisée presque à l'identique avec des légendes différentes, c'est-à-dire avec des noms de chefs gaulois différents. Ce qui montre bien que l'association d'une image et d'un nom, qui pour nous évoque immédiatement un portrait monétaire, en réalité, c'est davantage un effet de portrait qui est proposé. On est terriblement tenté de voir dans cette image le vrai visage de Vercingétorix ou un portrait de Vercingétorix. On le cherche parce que, finalement, avec les commentaires de César, il s'agit là de notre seule source directe de l'existence même de ce chef arverne. Le premier portrait monétaire de César apparaît en 44 avant Jésus-Christ, donc on est quelques années, presque une dizaine d'années après. Et c'est vraiment...